Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Albin Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit Simenon. Première nuit Simenon. Il y en aura deux. Alors deux seulement, alors qu'une dizaine de nuits spéciales n'aurait sans doute pas suffi à épuiser le sujet Simenon. Bah oui, cela dit, quelle idée de vouloir épuiser un sujet, quelle prétention, quelle ineptie. Passer une nuit, deux nuits, avec Georges Simenon, avec les romans, avec les nouvelles, avec les articles, avec ses personnages, et puis avec le personnage qu'il fut lui-même, ce sera un plaisir pour l'oreille. Pour l'oreille, nous sommes sur France Culture, mais le but sera bien aussi d'aller chercher celles et ceux qui n'ont pas encore plongé dans l'œuvre de Simenon, qui sait, ça peut exister, et de les engager, eh bien évidemment, à tenter l'aventure, l'aventure de la lecture, tout simplement. Alors, on sait que Simenon, ce n'est pas seulement le cinéma, la télévision, c'est aussi, et ce fut très tôt, la radio. En témoigneront au cours de ces deux nuits les adaptations de nouvelles et de romans pour France Culture ou pour les ancêtres de France Culture, que donc, par exemple, La mort de Belle, La péniche aux deux pendus, La première enquête de Maigret, La boule noire, Monsieur lundi, La neige était sale. Alors donc, puisque j'ai ou on peut avoir l'outrecuidance de penser que nos auditrices ou nos auditeurs n'ont jamais ouvert un livre de Georges Simenon, ce qui statistiquement serait assez improbable, mais peu importe, que faire ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent, et ce, grâce aux éditions Omnibus, on peut s'offrir l'édition intégrale, l'œuvre romanesque en 25 volumes. On peut aussi s'offrir les nouvelles secrètes et policières en 2 volumes, 1929-1938, 1938-1953. On peut aussi aller du côté des romans thématiques, toujours chez Omnibus, par exemple l'Amérique. Il y a 3 ou 4 romans, La fuite, 3 ou 4 romans, Affaires conjugales, et puis les romans américains aussi, les romans du monde. On peut aussi aller du côté des romans durs, 12 tomes. Soit on peut également aller du côté des romans illustrés, par exemple Les frères Ricot ou À nouveau dans la ville. Ce sont des romans illustrés par Jacques de Loustal. Jacques de Loustal que nous recevrons au cours de cette première nuit. On peut aussi s'offrir, alors là, les 6 enquêtes de Maigret, illustrées par Loustal également, et toujours chez Omnibus. En tout cas, on est comblé, voilà. Les entrées dans l'œuvre de Simenon sont tellement variées qu'on ne peut que trouver son bonheur de lecteur et on trouvera notre bonheur d'auditeur cette nuit. Ah, j'oubliais aussi mes apprentissages, ça c'est sur le Simenon reporter, enfin journaliste, mais on en reparlera peut-être. Bonsoir John Simenon.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors après tout, le plus simple, lorsqu'on a le plaisir de recevoir un Simenon dans les Nuits de France Culture, c'est de lui poser simplement cette question que l'on a dû vous poser 25 000 fois. John Simenon, par quoi commencer dans l'œuvre de Simenon ? Et puis on va ajouter une autre question qu'on a posée 30 000 fois sans doute. Vous-même, John Simenon, à quel âge et par quelle œuvre, par quelle nouvelle, par quel roman avez-vous tenté, avez-vous commencé la fréquentation de l'œuvre de votre père ?
Je commence par la première ou la deuxième? Peut-être par la deuxième d'abord, c'est plus facile, voilà, oui. Ça mènera en fait à répondre à la première question. Eh bien, pour reprendre un terme que vous avez utilisé, je n'ai vraiment plongé dans son œuvre, pour utiliser ce mot, que sur le tard. Je devais avoir à peu près 35 ans. Jusqu'alors, quand j'étais adolescent, je dirais que je surnageais un petit peu, je lisais ses romans au fil de l'eau lorsqu'il les écrivait, et puis pour dire la vérité, j'étais pas fan, pour une raison très simple, c'est que, comme il le disait lui-même, il n'a jamais rien inventé, donc il retranscrivait, remalaxait, retriturait tous les éléments de sa vie, et évidemment de la vie des autres avec laquelle il avait vécu, des amis, des connaissances, de simples personnes qu'il avait croisées, mais aussi en partie sa famille. Mais pour moi, évidemment, j'étais surtout sensible à toutes ces petites choses qui aujourd'hui, enfin qui, même à l'époque, pour n'importe quel public, étaient totalement sans aucune importance. Mais pour moi, ça en prenait une très grande. Et le point culminant, c'est le jour où j'ai lu un roman où un des était un jeune homme de 15 ans qui avait des rails de chemin de fer sur les dents, qui faisait l'étude des dieux grecs, de deux bacs, etc. Et là, je dois dire que je me suis dit, c'était devenu vraiment trop difficile. Et j'ai donc arrêté de lire les romans de mon père jusqu'à 35 ans, où tout à fait par hasard, j'ai mis la main sur un roman qui aujourd'hui fait partie de mes favoris, qui est La neige était sale.
Dont on écoutera la semaine prochaine une adaptation par Frédéric Dard.
C'est l'adaptation théâtrale, effectivement, du début des années 50. Il y en a eu d'autres au cinéma. Et là, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Je suis devenu, c'est plus le fils qui réagissait, c'était vraiment le lecteur. Mais avec cette force supplémentaire, c'est que tout ce qui me nourrissait, c'était donné non pas par un romancier que je ne connaissais pas, mais c'était mon propre père. Donc il y avait une espèce de réverbération entre le lecteur fils que je suis et le père. Et donc c'était une conversation que j'ai commencée, que j'ai jamais terminée d'ailleurs, à travers ces romans.
Mais votre père était encore en vie à ce moment-là ?
Il était encore en vie, mais il était déjà un peu déclinant. Donc cette conversation dont je vous parle a pris la place de conversation que j'aurais voulu avoir, même si j'ai beaucoup parlé avec lui, j'ai fait beaucoup de promenades, enfin toute ma jeunesse, toute mon enfance, je dirais, j'ai passé du temps à tous les jours pratiquement à me promener avec lui.
Aux États-Unis, vous êtes
aux États-Unis, en France, puisque nous avons commencé en Europe à Cannes et puis ensuite en Suisse. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, vous parlez de vous, vous parlez pas de votre père, vous parlez pas de votre famille. Enfin, en tout cas, moi, je parlais de moi. Et puis, et donc, j'ai raté, je crois, une très belle occasion de lui poser toutes les questions qui me sont venues par la suite. Mais je dois dire que grâce à ces contacts et ma lecture me permet aujourd'hui de créer une relation tout à fait particulière. Alors, je vous ai mentionné La neige était sale. Selon mes lectures, il y a d'autres romans qui... Alors, ça change un peu en fonction des dernières lectures. Mais je voudrais souligner un roman qui a été réédité en Italie tout récemment et qui a fait l'objet d'un article par Julian Barnes, le romancier anglais, qui s'appelle Chez Krull, et qui a été écrit dans les années, au début des années 30. Et ce roman... extrêmement frappant de montrer comment il représente, je dirais, l'aspect pas noir, je dirais, de ce que j'espère que nous ne vivrons pas en Europe, peut-être grâce aux événements récents, je dirais, on commence à pouvoir avoir de l'espoir. Mais c'est un roman qui parle vraiment du refus de l'autre, du repli sur soi, du rejet de l'autre, pas seulement le refus. Et évidemment, comme toujours, ce ne sont pas des grandes idées dont mon père parle, ce sont des individus, ce sont des personnages pris pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Mais ce roman est d'une actualité absolument extraordinaire. Et ce n'est peut-être pas surprenant que cette réédition italienne, au bout d'une semaine, se trouvait au numéro 1 des ventes, ce qui est tout à fait unique pour un romancier qui est décédé maintenant aujourd'hui il y a à peu près 25 ans.
Alors donc vous nous avez dit, John Simenon, par quelle œuvre vous avez commencé la lecture de votre père, en somme, et puis ce dialogue posthume que vous entretenez avec lui via son œuvre. Mais alors, pour les auditrices, pour les auditeurs qui éventuellement imagineront-les, enfin c'est invraisemblable, mais n'auraient jamais ouvert un Simenon. Évidemment, l'idée c'est de leur dire, allez lire du Maigret, est-ce que c'est une bonne
alors,
idée?
Alors Maigret aussi, bien sûr. Alors Maigret, je le lis beaucoup pour l'instant parce que je produis ou je coproduis plus exactement une série anglaise avec Rowan Atkinson, ce qui m'amène à relire un très très grand nombre de romans pour essayer de trouver ceux qui sont les plus aptes à être adaptés. Je dois dire que j'ai redécouvert tout récemment un roman qui s'appelle La nuit du carrefour, qui est un des tout premiers Maigret, peut-être le quatrième ou cinquième, je ne me souviens plus, et qui a tout de suite eu un retentissement considérable, puisqu'il a été très rapidement adapté au cinéma par Jean Renoir, ce qui a donné un classique du cinéma. Donc je dirais que c'est un des Maigret qui me touche beaucoup. C'est un Maigret extrêmement humain, qui est très sensible à la beauté féminine. Une des personnes qui fait partie de la liste des coupables potentiels est une ravissante jeune femme. Il y en a d'autres, il y a le Chartier de la Providence, il y a le Chien jaune, un grand classique aussi qui...
À Concarneau, hein, je crois que ça se passe.
Le Chien jaune se passe à Concarneau et le Chartier de la Providence sur les canaux de la Marne du côté de Dizy par là.
Mais alors comment justement réaliser pour la télévision anglaise Maigret et la nuit du carrefour, Maigret au Picrate, enfin c'est dans un carrefour en banlieue parisienne où passeraient 10 voitures dans la journée, un Montmartre qui serait où il y aurait une dizaine de personnes qui s'y promènent dans la nuit encore, pas beaucoup. C'est quand même très difficile, j'imagine. Vous n'avez pas tourné évidemment au carrefour annoncé dans l'œuvre, dans le roman de Georges Simenon.
Non, effectivement. D'abord, il faut dire que pour arriver à tourner, à recréer un Paris ou une banlieue parisienne des années 50, il s'avère que, comme pour beaucoup d'autres choses, la Hongrie et Budapest en particulier sont extrêmement utiles. L'architecture de Budapest peut ressembler de très près à celle de Paris. Vous avez des endroits qui ont des escaliers qui très proche de ceux de Montmartre. Alors, il n'y en a pas autant, bien entendu, mais enfin, avec les caméras, on peut toujours tricher un peu. Et les environs de Budapest aussi nous ont donné un endroit tout à fait particulier pour tourner la nuit du carrefour et créer d'ailleurs une ambiance tout à fait unique où le carrefour devient lui-même un personnage. Nous avons eu la chance, je dirais, on a pris un risque, on était obligé de tourner à l'automne dernier. En général, il fait très froid en Hongrie à cette époque-là, mais on a eu un temps sublime, ce qui a donné avec un soleil, une lumière très dorée, très douce, ça a créé un environnement tout à fait exceptionnel pour cette adaptation-là.
Ce qui n'était pas le choix de Jean Renoir, d'ailleurs, parce que lui, c'était plutôt brouillardeux, ce carrefour, dans son film.
Oui.
Alors que là, il y a une autre lumière.
Quoi. Alors, il est d'ailleurs responsable, Jean Renoir, de ce mythe, car c'est un mythe que Simenon est l'homme des brouillards et de la pluie, car... ce ne sont pas mes statistiques à moi, mais il y a des gens qui font des statistiques, qui connaissent l'œuvre de mon père encore mieux que moi, et qui ont déterminé que le soleil est bien plus présent dans son œuvre que la pluie ou le brouillard. Mmh. Mais c'est la pluie et le brouillard dont on se souvient, et je pense que La nuit du carrefour n'est pas totalement étranger à... Ce film n'est pas tout à fait étranger à cette réputation.
Et puis alors, vous l'avez dit, Rowan Atkinson, c'est quel choix étrange et réussi.
Oui, tout à fait. Alors, bon, pas si étrange que ça. Il pousse simplement l'étrangeté beaucoup plus loin que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que Jean Richard, qui a été presque le premier Maigret français, était
un comédien
comique avant tout.
Oui, c'est vrai.
Que Bruno Solo, je crois que vous allez le rencontrer
la semaine prochaine.
Eh bien, son premier ou son deuxième film dramatique, c'est une adaptation de Simenon. Et donc, je ne pense pas que ce soit si étonnant que ça. C'est souvent plus difficile de jouer la comédie que de jouer dans le drame.
Non, mais enfin, si on pense à Jean Gabin, Bruno Kremer,
que ce soit
au cinéma
chose,
ou à la télévision, les Maigret ont été plutôt des hommes massifs, sérieux, lourds, un peu... parce qu'il faut dire, donc, Rowan Atkinson, il est quand même connu par les téléspectateurs.
Comme ce Bean.
Anglais et français pour Mr. Bean.
Oui. Donc alors là, il n'a pas la même carrure. Ce qui était, pour moi, ce qui était essentiel, c'était avant tout qu'il puisse représenter un personnage avec ce qui avait rarement été exprimé, mais qui se trouve en filigrane dans les romans. C'est-à-dire une certaine forme de vulnérabilité de Maigret. Parce que Maigret n'est pas cette espèce de mur massif sur lequel toutes les balles rebondissent. Il absorbe ce qui l'entoure. Il absorbe la douleur qui est autour de lui. La douleur d'une ville, la douleur d'un petit voleur, la douleur d'une victime. Donc c'est quelqu'un qui ressent tout ça, et pour moi il était important de m'assurer que l'acteur aurait cette capacité, et il se fait que d'acteurs disponibles et qui correspondaient à tous les critères, parce que nous tournons pour la télévision anglaise avant tout, et nous devions tenir compte de leur propre cahier de charges. Nous sommes arrivés à Rouen, et quand je l'ai rencontré la première fois, je dois dire qu'au bout de 10 minutes, je me suis dit, si lui se sent de faire d'être le personnage, qui suis-je pour le contredire ? Et je pense que nous avons tous eu raison.
Donc ces téléfilms sont passés sur France 3, et puis on en attend d'autres au cours de cet automne-hiver. Alors, John Simenon, vous avez parlé d'une nouvelle traduction en Italie. John Simenon, parce que, évidemment... Georges Simenon, pour les Français qui s'approprient tout le monde, c'est un auteur français, alors qu'il n'est pas français, il est belge. Mais il est, voilà, on sait que c'est l'un des auteurs francophones, en tout cas les plus traduits au monde.
Le plus traduit au monde, oui. Enfin, le troisième plus traduit au monde, après quand même Jules Verne. Oui, et Balzac, si je ne me trompe pas.
Voilà, en tout cas des auteurs contemporains.
Dans le monde moderne, mais d'auteurs à partir du XXe siècle, oui, tout à fait. En Italie, il est l'auteur le plus traduit après Shakespeare. Voilà, ça c'est aussi, je veux dire, je suis très fier de pouvoir dire ça parce que ça marque quand même. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je ne le croyais pas, et puis je suis allé vérifier, c'est tout à fait authentique.
C'est des traductions qui ont commencé très rapidement, dans les années 30, 40
Écoutez, j'ai découvert la première édition anglaise, par exemple, elle date de 1932, ce qui est un an après la première édition française. Ce qui fait que l'édition américaine justement, La Nuit du Carrefour, est arrivée très rapidement après. Donc, je parle de celles-là parce qu'elles sont les plus inattendues, si vous voulez. Les traductions italiennes, les traductions norvégiennes, allemandes, etc., elles aussi ont suivi très rapidement, mais je dirais que la proximité géographique et culturelle nous amène à penser que c'est plus logique. Or là, non, il a été traduit en Angleterre avant d'être traduit en Italie. Ça continue.
Dans le monde entier. Et puis, un roman comme La Main a été adapté au théâtre ?
Oui. Par un très grand auteur dramatique anglais,
David Hare.
David Hare, oui. Excusez-moi, je venais de penser à Julian Barnes, donc c'est David Hare qui a écrit cette adaptation qui s'appelle The Red Barn, donc la grange rouge, puisque l'histoire de La Main se passe en grande partie dans une grange.
Dans le blizzard.
Dans le blizzard du Connecticut, absolument. En fait, le décor réel tel qu'il est décrit, c'est la maison familiale où nous vivions à l'époque.
Vous n'avez pas reconnu simplement le garçon avec le fer sur les dents, etc.
Là, j'ai bien reconnu The Red Barn parce que cette grange existe toujours d'ailleurs. Ça aussi, ça a été un très très grand succès puisque la pièce a joué au National Theatre pendant 3 mois à guichet fermé.
Alors justement,
je peux vous donner un scoop. Dites-moi. Nous sommes en train de négocier le voyage à Broadway. Voilà.
Pour
cette adaptation.
Bon. Alors, John Simenon, vous me dites, vous nous avez dit en début d'entretien de cette première nuit spéciale Georges Simenon, que vous voilà comment vous avez commencé à lire l'œuvre de votre père, et puis comment vous êtes arrêté parce qu'il y a un roman qui vous semblait un petit peu trop proche de ce que vous viviez vous, en tout cas du garçon que vous étiez. Moi, je suis très surpris en lisant ou en découvrant parce que j'ai pas lu tout Simenon. Je l'avoue, mais je dois lire tout Simenon. Les histoires de paternité, souvent il y a une espèce de jeune voyou qui arrive dans l'histoire. Par exemple, Maigret et l'homme du banc, aussi le revolver de Maigret. Et alors c'est des espèces de voyous, demi-voyous, enfin fils de bonne famille ou de famille qui n'est pas bonne, mais... On sent que Maigret, qui n'a pas d'enfant, qui a perdu une petite fille, on croit, enfin une petite fille qui n'est pas née, je crois qu'on lit ça au hasard. On ne s'appesantit jamais sur les histoires ni conjugales.
Toujours en filigrane.
Voilà. Mais quand on est le fils de l'auteur et qu'on voit la tendresse, l'émotion qu'a le commissaire Maigret pour ces jeunes hommes, adolescents, un peu grandis, un peu immatures, et puis qui sont comme ça sur le fil du rasoir, qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre. On doit lire d'une manière différente des lecteurs classiques.
Oui, tout à fait. Je devrais dire, c'est pas seulement les jeunes hommes, puisque vous avez les jeunes femmes aussi.
Que je reçois, John Simenon.
Tout à fait, oui. Non, mais c'est assez important parce que c'est la relation, en fait, je dirais, la relation de mon père avec la paternité qui est derrière tout ça. Et il disait lui-même qu'il était son vrai métier avant tout, c'était d'être père de famille. Et ce n'était pas des paroles en l'air, c'était des paroles qu'il vivait tous les jours. Ça, je vous ai parlé tout à l'heure des promenades que nous faisions ensemble. C'était quotidien. Nous mangions ensemble à midi et le soir. Pas au petit déjeuner parce que soit il travaillait déjà, il s'isolait dans son bureau à ce moment-là, soit il dormait un peu quand il n'était pas en roman. Mais donc c'était des contacts extrêmement proches et quotidiens. Et il a pris, il avait une véritable réflexion sur ce que ça représente d'être père. Vous avez mentionné les relations entre Maigret et certains autres personnages, mais vous retrouvez cette relation dans un grand nombre de romans durs, justement, comme l'Horloger d'Everton, Le Fils, bon, voilà, La disparition d'Odile. Donc ce thème est un thème que l'on retrouve de manière quasi permanente.
Et mais c'est pas au détriment de toute manière de l'enquête, parce que enfin de la résolution.
Non, c'est la toile de fond. Mmh. C'est la toile de fond, mais c'est une réalité. C'est une réalité vécue à l'époque où il a créé Maigret. Il n'était pas encore père, donc je pense qu'il y avait une certaine projection là de ce côté-là. C'est quelque chose qu'il avait toujours souhaité être. Ça lui a pris du temps, parce que sa première femme était moins enthousiaste à cette idée-là. Mais finalement, à force d'acharnement, il y est arrivé, et je pense, et puis voilà. Donc,
Alors, il répond pas aux provocations des jeunes gens ou des jeunes femmes qui, voilà, qui... Mais il les nourrit. Ils sont dans le bureau, là où il va les interroger, où ils sont quelque part dans un bar. Il fait venir quand il est dans son bureau, il fait venir 6 sandwichs très épais de oui. La brasserie Dauphine pour les nourrir. Enfin bon, il est avec les personnages fragiles, même si c'est pour ensuite les envoyer devant le juge.
Absolument, oui. Mais il a de l'empathie naturelle.
Oui, naturelle.
C'est la caractéristique principale de Maigret, c'est que il essaye vraiment de comprendre de l'intérieur les personnes avec qui il est confronté, que ce soit des assassins, que ce soit des petits voleurs, que ce soit des victimes aussi. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il absorbe comme une éponge. Mon père parlait du métier de raccommodeur de destinée. Et il disait que d'une part, bon, c'est peut-être le point commun qu'ils ont entre eux. Mon père, c'est toujours ce qu'il rêvait lui-même d'être, et il a projeté ça dans Maigret lui-même. Et donc, il dit toujours, Maigret, pour lui, c'est quelqu'un qui essaye de raccommoder les destinées qu'il rencontre, quelles qu'elles soient. Parce qu'il considère que tout le monde mérite une chance de se raccommoder.
C'est pour ça, en fait, que...
C'est très chrétien, quelque part. Mmh. Même si mon père a rejeté la religion, mais il a gardé, une très forte enracinement dans le christianisme.
Alors, il envoie les coupables en prison, mais on n'a pas l'impression que c'est ce qui est le plus important, quand même. C'est vraiment, pour Maigret, et puis dans les autres romans aussi, c'est croiser, en effet, l'homme nu, l'homme banal. Parce que Maigret, finalement, il est commissaire, il est inspecteur, il est commissaire, il est l'homme le plus célèbre, le policier le plus célèbre de France. C'est un personnage de fiction, certes, mais pour autant, il pourrait, dans les romans aussi, se garder les enquêtes les plus prestigieuses, les plus valorisantes. Pas du tout. On lui dit, on a trouvé un homme mort quelque part au fin fond du 12e arrondissement ou ailleurs ou dans le 16e, ça l'intéresse. Alors, c'est son flair, certes, ça va donner une enquête intéressante, ça va donner une plongée dans un quartier de Paris ou ailleurs, mais quel flair et pour des histoires banales.
Mais justement, parce que si vous faites référence à Maigret et son mort, parce que c'est le thème justement de ce roman, eh bien tout le monde mérite d'être accommodé quelque part. Et même ce mort, cette victime, comme je vous ai dit, il considère que s'il a le droit que l'on résolve son meurtre. Ça l'amène évidemment à autre chose, mais c'est une bataille qui va mener pendant toute la première moitié du roman avec le juge Comélio, qui lui, en revanche, n'a qu'une seule idée en tête, comme beaucoup de juges, qui est de trouver un coupable. Et ce sont deux optiques, je dirais pas opposées, mais complémentaires de la justice.
Alors, on l'a dit en début d'entretien, John Simenon, à quel point, grâce aux éditions Omnibus, qui nous propose en 25 tomes l'édition intégrale de l'œuvre de Georges Simenon, et puis aussi avec mes apprentissages, ça c'est le Simenon journaliste, grâce aussi à des tomes thématiques, l'Amérique, les affaires conjugales, grâce à d'autres, par exemple les 6 enquêtes de Maigret illustrées par Loustal, on en a parlé également, grâce aussi aux frères Rico, des romans, le roman et puis un nouveau dans la ville, toujours illustré par Jacques de Loustal et publié chez Omnibus, lequel Jacques de Loustal viendra dans la nuit plus tard nous en parler. On a parlé du théâtre en Angleterre, mais puis La neige était sale. On a parlé des éditions en Italie, en Angleterre, en Amérique, enfin dans le monde entier. Cinéma, théâtre, peut-être Broadway, peut-être. Moi, je pensais à quelque chose.
Il a fait de la radio. Vous savez.
Il a fait de la radio.
Il a écrit un roman radiophonique qui s'appelle Monsieur Proulx. Donc, mon père était quelqu'un qui était totalement en phase avec les avancées technologiques de son temps, puisque ça a commencé avec le cinéma, toutes les adaptations, la télévision, la radio. Et je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, s'il avait 30 ans ou 35 ans, il serait certainement très actif d'une manière ou d'une autre sur la toile. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais il en ferait certainement partie.
Alors moi, je rêve, John Simenon, d'aller voir dans un an, deux ans, trois ans, mais je sais pas, c'est peut-être absolument pas un projet, un film d'animation avec les illustrations de Loustal.
Je pense que c'est une très bonne idée et je vais certainement la creuser.
Bon, mais quel roman, par exemple, pourrait donner lieu à un film d'animation pour adultes, bien sûr.
Oui, tout à fait. Bon, bah, dans des choix comme ça, ça se fait pas tout seul. C'est pas un décret que l'on fait. Ça doit être celui-là ou celui-là.
C'est pas à moi de décider. J'ai pas le droit.
Vous pouvez, par exemple, oui, pourquoi pas, si vous voulez faire partie de la production, c'est avec grand plaisir. C'est un travail d'équipe.
Hein. On va faire un partenariat avec France Culture.
Mais vous parlez de Loustal, il faut aussi que ça l'inspire. Par exemple, le roman illustré dont vous avez parlé tout à l'heure. Le nouveau dans la ville, c'est lui qui a souhaité, avec ce roman, changer complètement d'atmosphère, puisque c'est un homme de soleil, c'est un homme des tropiques, c'est quelqu'un qui est attiré par ce genre d'environnement et qui a décidé de faire un roman sur du froid, de la neige, sale, dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre. Donc il faut l'écouter aussi.
Bon, ben on va faire mieux que l'écouter, on va lui poser des tas de questions au cours de cette première nuit spéciale Georges Simenon. Est-ce qu'il y a un roman que vous détestez, John Simenon?
Vous détestez non. Aller non. Non, d'abord j'ai de la peine à détester par nature. Pour moi, le pire, c'est l'indifférence. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun roman de mon père qui me laisse indifférent, non.
Et puis alors, une question que je me suis posée comme ça, peut-être que vos éditeurs, les éditions Omnibus, se disent « mais c'est formidable, tout le monde veut lire du Simenon, et puis il y a des entrées très 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 variées, encore une fois, parce que quand on lit les 6 enquêtes de Maigret, un bon gros volume comme ça, illustré par Loustal, avec les illustrations, toutes les 5-10 pages, et puis une légende à l'arrière, on a l'impression, quand on est un ancien lecteur de la Bibliothèque Rose, de se retrouver dans une enquête du Club des 5, Fantomètre, tout ça. C'est un tout autre monde. Mais vous savez, il y avait les petites illustrations, là, oui. Ça arrive 2 pages après, alors oui, on se dit, ah oui, ça correspond à, etc. Et la typographie, mais même la typographie fait que tout ce qui est nouveau, finalement, pour notre cerveau, donne une nouvelle lecture de Simenon.
C'est certain que l'apport des illustrations est important dans un cas particulier comme celui-là. C'est une manière de d'ajouter une inspiration parallèle, celle de l'illustrateur, qui va évidemment imprégner la lecture par le lecteur. J'ai pris énormément de plaisir à lire Un nouveau dans la ville, illustré par Loustal, que j'avais déjà lu le roman sans illustration, et je dois dire que ça a été une expérience tout à fait différente quand je l'ai lu dans sa version illustrée.
Mais c'est, oui, donc c'est comme sûr. Quoi ça compte beaucoup aussi l'imprimerie, la manière dont c'est le papier,
très important, c'est très important, et nous avons la chance d'être avec un éditeur qui donne beaucoup d'attention à tout ça et avec beaucoup de créativité.
Alors justement, on a l'impression, grâce à cette pléthore d'éditions et de choix, de possibilités, grâce à Omnibus, donc d'aller trouver du Maigret, trouver du roman noir, du roman moins noir, etc. Est-ce que quelqu'un, sans doute, vous a dit un jour, John Simenon, écoutez, il y a des autres personnages aussi célèbres ou importants, genre Hercule Poirot, Black et Mortimer, Arsène Lupin, qui ont une vie, finalement, qui suit la mort du créateur. Est-ce qu'on vous a dit, mais il faudrait écrire des nouveaux Maigret ou faire écrire des nouveaux Maigret?
C'est une idée, mais elle est très difficile à mettre en pratique. Elle est très compliquée à mettre en pratique pour des tas de raisons. D'une part, je pense que la question déjà ne se pose pas compte tenu du fait que j'ai toutes les raisons de penser que mon père n'aurait pas souhaité cela. Donc ça, il faut le respecter. Mais même sinon, c'est une tradition qui se fait en Angleterre et aux États-Unis sans grand problème, puisque par exemple, Agatha Christie, on est déjà au troisième,
deux ou trois,
voilà.
Le troisième va peut-être paraître.
Et je connais très bien le petit-fils d'Agatha Christie, avec qui nous avons discuté de ce genre de préoccupations. Là-bas, c'est un problème ni pour la famille de l'auteur, ni pour les auteurs eux-mêmes, qui se prêtent tout à fait à ce genre de grands auteurs se prêtent totalement à ce genre
d'exercice. Anna, je crois,
Sophie Anna, dans le cas particulier de
Hercule Poirot.
Mais vous avez par exemple John Banville qui lui, alors c'est extraordinaire parce qu'il est déjà un petit peu écartelé entre deux personnages de romancier lui-même, puisque il s'appelle aussi Benjamin Black quand il écrit des polars et John Banville quand il écrit des romans durs. Mais en plus, il a aussi servi de nouvelle plume en quelque sorte j'ai un problème avec les noms là tôt tard le soir, ça va me revenir, mais
prenez votre temps,
voilà. Oui, mais de toute façon c'est quelque chose de très anglo-saxon et je ne sais pas si aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire ce travail à des auteurs non francophones, et je pense que ce serait très difficile de mettre ça en pratique dans une culture francophone.
Mais c'est belge aussi, puisque Black et Mortimer, alors la bande dessinée, ben
oui,
voilà.
Mais la bande dessinée, c'est pas tout à fait la même chose quand même.
Mais vous disiez que Georges Simenon sans doute n'aurait pas aimé que finalement ces personnages lui, enfin, qu'on fasse du...
Ah, mais il a accepté des adaptations, c'est tout à fait différent.
Chose,
il y a
sûr.
Eu des adaptations en bande dessinée, d'ailleurs.
Non, mais Hergé, lui, a toujours refusé de son vivant qu'on fasse du nouveau Tintin, et d'ailleurs,
c'est respecté. C'est ce que je dis, de toute façon, je vous réponds à deux niveaux. Je vous réponds d'un côté, bon, la question ne se pose pas, et puis ensuite...
D'un point de vue moral.
Parce que c'est un sujet tout de même très intéressant au niveau de la réflexion sur ce qu'est la création. J'essaye d'aller simplement plus loin pour vous montrer qu'on peut, tout en explorant, c'est plus difficile d'explorer cela dans une culture francophone que dans une culture anglophone.
Parce que comment ça se passe finalement l'œuvre de Simenon ? Alors Simenon est loin d'être dans le domaine public, donc on ne peut pas adapter un roman de Simenon comme ça sans vous demander l'autorisation, sans demander l'autorisation à qui ? Enfin, c'est comment ça se passe pour un film, pour la radio d'ailleurs ?
Oui, tous les droits appartiennent à une société qui décide, voilà.
Mais alors il faut lire tous les scénarios d'abord.
Oui.
Et ça arrive, il en arrive des dizaines par mois, j'imagine.
Non, tout de même pas, mais les lectures doivent se faire souvent à répétition. C'est-à-dire que donc dans cette société, j'en suis le dirigeant, donc c'est moi qui reviens cette lourde charge. Mais lorsque vous avez une adaptation qui vous est proposée, vous devez déjà relire le roman, parfois deux ou trois fois, selon la complexité de l'adaptation. Et puis les adaptations elles-mêmes, il y en a plusieurs versions. Et en fonction de... Alors il y a des adaptations qui ne demandent qu'une seule lecture, il y en a d'autres qui en demandent deux, trois, quatre parfois. Voilà, ça dépend des circonstances particulières. Par exemple, les adaptations des Maigret que nous faisons actuellement... j'ai été amené tout de même à lire certaines... Enfin, une, j'en ai lu dix versions.
Et alors, qu'est-ce qui vous fait refuser, rejeter ?
Il n'y a pas de rejet jamais absolu. C'est surtout des discussions avec les adaptateurs pour explorer plus à fond la signification de telle ou telle réplique, par exemple, ou de tel parti pris. Parce qu'après tout, il ne faut pas, et ça fait partie de mes obligations, ce n'est pas de limiter la créativité des adaptateurs, parce que c'est quand même leur œuvre aussi. Mon rôle, ce n'est pas de les brider, c'est au contraire d'essayer de les ouvrir leur champ de possibilités autant que possible, mais tout en respectant l'essentiel qui est, je dirais, l'arc psychologique des deux, trois personnages principaux.
Alors, cette première nuit, John Simenon va se poursuivre, puisqu'on va entendre Georges Simenon lui-même avec Max Favalelli. C'est une émission qui s'appelle Bon Voyage. Puis on écoutera une adaptation de La Mort de Belle qui était dans Cinéma pour les ondes. C'est autour du film. C'est une émission de Roger Réjean et Jacqueline Adler diffusée en 1961 sur Paris Inter. Ensuite, on écoutera De bouche à oreille de René Elkaïm Bollinger qui en 2003 s'était intéressé à l'appétit de Georges Simenon. On rencontrera Jacques de Loustal. Puis on écoutera des nouvelles du crime, La péniche aux deux pendus, une adaptation de, enfin une lecture de Christian Allaire, une présentation de Francis Lacassin, grand simenonien, et puis une heure de culture française, un petit entretien sur la collaboration cinématographique franco-belge, Simenon Esteman, Stanislas André Esteman, une émission de René Jeanne qui avait été diffusée en 1958 sur France 3 National. Et puis on terminera cette première nuit spéciale par la première enquête de Maigret, une adaptation de Jean-Jacques Sten et Eulalie Sten, une réalisation de Jean-Fried Garrett, diffusée pour la première fois sur France Culture en 1982. Et puis on se retrouvera en toute fin de nuit, John Simenon, parce que je suis sûr que vous avez d'autres projets, enfin il y a certainement d'autres projets autour de l'œuvre éditoriale, enfin des projets éditoriaux, des projets cinématographiques, etc., dont vous n'avez pas encore parlé, dont vous nous parlerez peut-être, John Simenon, si vous le voulez bien. Et puis on peut aussi écouter, il y a eu une adaptation formidable du Train, il y a presque un an, sur France Culture, une adaptation aussi des Lettres à mon juge, les deux adaptations écrites par Pierre Assouline, qui sera notre invité en début de la prochaine nuit, dans une semaine, de la deuxième nuit, Simenon. Vous vous souvenez de ça vous avait plu, ces adaptations du Train et...
Alors j'ai assisté à l'enregistrement de celle du Train, je n'étais pas là pour celle de Lettres à mon juge, mais j'avais été très 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 fortement et impressionné et ému. Je dois dire que ça a été une expérience tout à fait particulière. Oui, ça a été une manière de redécouvrir ce roman grâce aux voix de tout le monde. Guillaume Gallienne qui était absolument époustouflant, mais pas seulement, enfin toute l'équipe de la Comédie Française. Et oui, ça fait partie des grandes expériences vécues depuis 2-3 ans, oui.
Voilà. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure, John Simenon, vous allez écouter toute cette grande nuit, cette première nuit spéciale.
J'ai pas beaucoup dormi. Hein.
Simenon, mais la voix de votre père, vous la connaissez bien, vous l'avez en tête de toute manière.
Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, oui. Tout à fait, je la reconnaîtrai entre toutes.